Bonjour Daniel Card.
Bonjour.
Alors, vous avez plusieurs casquettes lors de ce Festival international des métiers de montagne, puisque vous travaillez dans l'environnement et puis vous êtes aussi un artiste et surtout passionné, amoureux de la nature et de la montagne.
C'est vrai que j'ai un parcours qui n'est pas très commun parce que j'ai commencé en sortant de la fac, il n'y avait pas de travail. Du coup, j'ai fait des tas de petits boulots, y compris des boulots super intéressants, parce qu'on peut toujours trouver du bien dans quelque chose qui est contraignant. Moi, je voulais travailler pour la protection de la nature. Sauf que c'est un domaine qui est plutôt du côté des contestataires. Donc c'est assez difficile. Comme disait un élu que j'ai bien connu, on ne va pas payer la chaussure qui va vous botter le cul. Passez-moi l'expression. Donc on s'est organisé et moi j'ai essayé de trouver ma place comme professionnel, mais bien longtemps après, vers les années 85-86, j'ai fait des grands voyages avec mon sac à dos, ma flûte et mes jumelles. C'est des instruments absolument indispensables, le reste on peut être tout nu, ça ne pose pas vraiment de problème et surtout dans plein de pays. Après un parcours comme celui-ci, c'est difficile de trouver du boulot, alors j'ai fait une formation de création d'entreprise ici à Chambéry. Et puis je me suis mis à mon compte en 1987. Peu importe les dates, mais j'ai commencé à rentrer dans des réseaux. J'ai travaillé pour la Chambre de commerce. J'ai travaillé aussi pour le ministère de l'Environnement, pour la région et quelques entreprises privées qui cherchaient à régler leurs conflits, par exemple en matière de déchets. On a créé une opération en partenariat avec France Nature Environnement, dont j'ai été membre. C'est la fédération de toutes les associations. Et puis, c'était intéressant parce qu'ils avaient vraiment peur du diable. Le diable, c'est les industriels. Ils n'ont pas tout à fait tort, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses qui mériteraient d'être, à l'époque en tout cas, qui méritaient d'être en progrès. Et je pense qu'on les a aidés à progresser. Mais pour le consultant que je voulais être, ce n'était pas ça qui allait me faire vivre. Du coup, il s'est avéré que la médiation était un bon point parce que le pays, à l'époque, était encombré par la gestion des déchets et on s'est retrouvé avec des conflits partout. Des gilets jaunes, si vous voulez, mais un petit peu en avance. C'était « je veux pas de ça chez moi », c'était les NIMBY. Et moi, je travaillais en interface entre les entreprises, les collectivités qui ne pouvaient plus ouvrir de décharges et qui ne pouvaient pas non plus les fermer. Et puis, avec les associations, qui étaient évidemment très mal perçues, et qui pourtant voyaient juste, parce qu'effectivement il y avait des pollutions qu'on leur cachait. Vous savez, c'est comme le nuage de Tchernobyl qui s'arrête aux frontières. C'était en plein l'époque, donc ces arguments ils passent plus maintenant, heureusement. Mais s'il n'y avait pas eu ça, s'il n'y avait pas eu ces pionniers, eh bien il n'y aurait pas d'écologie actuellement, il n'y aurait pas eu Hulot au gouvernement. Bon, il a bien fait de claquer la porte entre nous. Toutes ces choses-là m'ont permis moi de comprendre qu'il fallait qu'à la fois on défende la nature au plus près du terrain, et puis qu'on infiltre dans le bon sens du terme toutes les institutions, toutes les entreprises pour placer un petit peu d'écologie dans un développement qui soit vraiment soutenable.
Mais changer progressivement la conscience collective écologique.
Cette conscience collective qui a du mal à se fédérer. Hélas.
Et alors qu'est-ce qui vous a, après ce parcours initiatique, on va dire des voyages, vous a poussé à aller plus vers les entreprises justement?
Parce que contrairement à ce que peuvent penser les associations, c'est peut-être le lieu où il y a la plus grande facilité de changement. Et je ne veux pas parler du greenwashing, qui est très répandu chez les très grosses entreprises, celles-là même qui polluent le plus la planète. Mais je veux parler des entreprises qui veulent simplement donner du travail et s'insérer dans la société d'une manière tout à fait légale et saine. Et ces entreprises-là, il est important qu'on les aide. Or, elles n'ont pas d'outils. Et surtout, les réglementations en matière d'environnement, avec toutes les nouvelles technologies, c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver. Donc il faut des guides. Et je pensais, et je pense toujours, que ces guides doivent toucher tous les domaines d'activité. C'est pour ça que dans mon travail de consultance actuellement, que je redémarre après une quinzaine d'années à l'agence Écomobilité, j'ai souhaité intervenir pour les collectivités territoriales, pour les entreprises, pour toutes les institutions, dans un respect de la responsabilité sociale, sociétale des organisations. Et puis, s'inscrire dans le développement vraiment soutenable. C'est le mot anglais, c'est le mot espagnol aussi, desarrollo sustentable et en espagnol. Je crois qu'il faut redonner la force à ces mouvements qui se perdent un petit peu autrement dans des petites luttes intestines, alors qu'on devrait tous s'associer pour défendre la planète.
Et alors, vous insistez sur sustainability, soutenabilité.
Ouais, c'est compliqué à dire.
Est-ce que le développement durable, vous avez parlé aussi de greenwashing, comment vous les distinguez, vous, qui allez démarcher justement les collectivités territoriales, les entreprises ?
Eh bien, venir avec des vrais arguments, avec objectivité, analyser d'abord avec un bon diagnostic et avec une démarche participative, c'est-à-dire pas simplement le décideur qui tient les cordons de la bourse, mais toute la chaîne de décision qui va jusqu'à l'exécutant, le plus modeste, mais aussi le plus proche des réalités. Et en intervenant de cette façon, ben les gens ils se prennent au jeu. On peut d'ailleurs leur apporter une façon de travailler ou d'être beaucoup plus ludique. Ça rejoint toutes les disciplines des sciences humaines ou des pratiques de santé, on pourrait dire parallèles, mais pour moi, elles sont pas du tout parallèles. Elles existaient bien avant la pharmacologie et la chirurgie. Ce sont simplement des pratiques qui doivent converger pour faire de l'être, non pas un consommateur ici, un citoyen là, et puis un cloisonnement épouvantable, on ne s'y retrouve plus, on est en vraie schizophrénie, mais plutôt un être qui soit entier, qui vive pleinement sa vie et qui la vive du berceau jusqu'à la tombe.
Comment vous faites pour trouver l'équilibre dans la schizophrénie et le paradoxe
Être le plus proche possible de la nature. Je me ressource avec la nature. Pour moi, c'est pas seulement une nourriture, mais c'est pas non plus du délire de Baba. C'est quelque chose de très concret. La nature, c'est de l'énergie. Et il faut se relier avec toutes les énergies qui existent sur la planète et faire la distinction entre les fausses énergies, celles qui sont là pour vous attirer dans un piège, et puis les vraies énergies qui sont là pour nous donner de l'équilibre, pour nous donner de la joie, de l'enthousiasme, c'est vraiment ce qui manque actuellement. Et puis aussi pour ne pas oublier qu'il y a actuellement des urgences et qu'il faut se concentrer sur ces urgences. C'est pour ça que j'aime bien lier l'utile à l'agréable. Et la nature, c'est un tout et c'est magnifique. Il y a des oiseaux, ça chante, les forêts sont un véritable plaisir. En toute saison, même quand il n'y a plus d'oiseaux qui chantent. Savez-vous que simplement le bruit de la pluie qui tombe sur les feuilles quand il y en a encore, le crissement des cristaux quand ils commencent à fondre et qu'ils descendent sur les pas, c'est fabuleux. Et bien alors, en plus, une forêt de montagne qui chante en plein développement, c'est extraordinaire. J'ai par exemple avec moi un CD qui permet d'écouter quelques chants d'oiseaux et moi ça me réjouit et j'ai l'expérience de groupes qui ont complètement changé leur façon d'être à la suite d'une balade, simplement, une petite balade d'après-midi du côté de Lens-le-Villard, en allant au refuge de Plumes Fines. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ? On découvre des choses fabuleuses et à tout instant, à chaque pas, il y a quelque chose d'intéressant à voir.
Et comment, justement, vous proposez de se reconnecter à la nature ? Parce que je vis dans une société de distraction, un peu, où l'attention est toujours captée, les médias, les nouvelles technologies, et finalement, on passe à côté de la nature sans la regarder.
Ce que j'essaye à côté de mon activité de consultant, disons entre guillemets plus sérieux, c'est de toucher tous les publics. Et alors c'est très difficile de se faire connaître par contre, très très difficile. J'accompagne des sorties thématiques, ludiques, sur des thèmes comme les oiseaux de montagne par exemple avec le CIM. On travaille ensemble à développer des produits qui permettent aux gens de se former à certains aspects de la connaissance de la nature. Connaissance du milieu montagnard, l'orientation. Et moi, je m'occupe de la connaissance des oiseaux, parce que c'est un monde à lui tout seul, que c'est fabuleux, que ça rejoint la musique, ça rejoint les énergies de la nature. Et c'est une source de joie permanente.
Et comment vous êtes venu justement à vous intéresser plus précisément aux oiseaux ? Ça a eu une passion de toujours ou vous avez eu un déclic à un moment ?
Mon papa était quelqu'un peut-être un petit peu décalé, qui dans son travail était pas à l'aise. Il devait faire la navette constamment entre une ville de banlieue et puis le centre-ville de Paris. 3 heures d'embouteillage dans la journée, on revient fatigué. Mmh. Et il adorait m'emmener en forêt ou aller faire des petits tours. Ça m'a touché. Il aimait faire le jardin aussi. Donc il m'a donné quelque part un message. Mmh. Mais il n'y a pas que lui. Après, pendant mes études, alors que moi j'étais en train de faire le clown avec une paire de jumelles et puis une flûte, j'avais des copains qui, eux, très sérieux, dans le monde des ornithologues que j'ai rejoint ensuite, me disaient « Ouais, Daniel, arrête, il y a des oiseaux, tais-toi !» Et bien moi, en fait, le dialogue que je faisais avec les oiseaux par ma flûte, c'était pas autre chose qu'une immersion dans la nature, avec ou sans flûte, d'ailleurs, on y arrive très bien, et une forme de contemplation. J'ai même envie de dire une forme de yoga. Quand on est dans la nature, on se ressource, on est en état de transe. Et cette transe, on peut la reproduire n'importe quand, même quand on n'est pas dans la nature et qu'elle nous manque.
Ça veut dire que là, si vous habitiez en milieu urbain, à Paris, ça...
J'ai habité Paris, et j'ai habité en banlieue forcément pendant toute mon enfance. J'ai été très malheureux. Et mon choix, c'était d'aller faire des études ailleurs. Ben, j'ai réussi finalement, j'ai terminé à Grenoble... J'étais sans doute un peu trop contestataire à l'époque pour avoir droit à une bourse, donc j'ai pas pu faire de thèse, mais c'est tout comme, j'avais peut-être pas besoin de ça. J'ai voyagé à la place et c'est bien plus instructif encore.
Qu'est-ce qui vous a mené du coup ici ?
Oh ben, allez, j'irais dire c'est l'amour. Et c'est encore l'amour qui m'a fait rester, parce que j'ai failli revenir au Chili avec mon épouse. Et puis finalement, par amour, elle s'est dit « mais c'est peut-être plus important de rester ici, on a plus de choses à faire ». En tant qu'éducatrice spécialisée, elle a sa place dans le circuit. Et puis ben, moi aussi, et finalement, ben, on a une grande qui est née en France, un moyen qui est née au Chili, et puis la plus jeune qui est née à Aix-les-Bains. Et c'est très bien comme ça.
Comment on fait pour passer de l'image de contestataire à plutôt quelqu'un qui va éveiller les consciences à travers le consulte.
J'aime bien cette question parce que c'est extrêmement difficile de répondre. Mais, et comme c'est trop difficile, j'ai envie de vous dire, il faut rester soi-même, quoi qu'il arrive. C'est du théâtre aussi, c'est du théâtre, et c'est une façon d'être, mais plus on est soi-même, et plus le message passe. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu très récemment gagner un appel d'offres dans un domaine où je n'avais pas exercé depuis une vingtaine d'années et plus. Et alors que le monde a changé, et je me suis dit, il faut changer aussi. J'ai eu probablement avec la personne qui m'accompagnait, on a eu des mots vrais, des mots qui ne sentent pas la pub pour gagner un marché, mais... sincèrement, aider une collectivité à gagner le respect qu'on lui doit avec des bons outils. En l'occurrence, c'était l'évaluation d'une charte de parc. Et je trouve que c'est très intéressant d'intervenir quand on n'est pas le plus spécialisé du monde sur cette question, mais qu'on est associé avec des gens qui le sont et qu'on apporte une autre dimension. C'est cette dimension-là que j'essaye de vendre maintenant.
Mais comment on fait pour garder le cap, justement, quand savoir que ce qu'on fait est juste, alors que...
On s'amuse de temps en temps. Un petit exemple. Tout à l'heure, j'ai raté mon train.
Oui.
Je voulais arriver à 9h moins le quart pour voir mon ami Jean-Marc qui est à côté au stand. Et j'ai raté mon train. Qu'est-ce que je fais ? Il faut que j'attende 3/4 d'heure. J'ai attendu 3/4 d'heure dans la gare d'Aix. Heureusement, il y avait une personne dans la salle d'attente. Ça veut dire que la salle était ouverte. Il y avait un piano. Je me suis installé au piano. J'ai demandé si ça dérangeait personne. Puis j'ai joué. J'ai pas vu le temps passer. J'ai demandé, si possible, qu'on me prévienne 5 minutes avant mon train. Parce que j'aurais pu rater le suivant. J'en étais capable. Voilà, puis j'ai joué. On a discuté. Je suis tombé sur une dame très, très aimable qui était perclue d'arthrose. Qui avait un déambulateur, les deux mains bandées, et qui était neuropsychologue. On a parlé de santé tout en jouant, c'était très intéressant. Il y avait un jeune qui écoutait, qui voulait apprendre le piano, je lui ai proposé de lui donner des cours, il n'y avait pas le temps, bien sûr, mais ça ne fait rien. Voilà, on était bien, j'ai passé du bon moment, et du coup, c'est ça qui m'a peut-être le plus préparé à vous parler aujourd'hui.
si on pouvait parler du métier d'ornithologue, est-ce que vous le considérez plus comme un métier ou comme...
Oui, il y a des métiers dans l'ornithologie.
Ouais.
Le métier d'ornithologue, c'est de faire des observations, des études, suivre une espèce, par exemple, sur un temps donné, sur un espace donné, et puis essayer de connaître son évolution. Alors d'abord, son autonomie, sa vie, c'est comme ça qu'on différencie les espèces entre elles. On peut les différencier aussi par le chant. Donc là, ça fait partie de mon métier, si on peut dire. C'est que je distingue les oiseaux par le chant, et surtout les oiseaux de montagne. Et ça me passionne de les connaître, de les reconnaître. Et l'une des méthodes qui est utilisée dans beaucoup d'études scientifiques, c'est d'essayer de découvrir la diversité et l'abondance des espèces. Et en particulier au moment de la nidification. C'est-à-dire généralement, mais pas tous, généralement au printemps. Et qu'est-ce qui se passe au printemps ? Ben les oiseaux, comme tout le monde, la sève monte, ils ont besoin de rencontrer leur compagne, ils ont besoin de d'assurer la pérennité de l'espèce. Et le chant est un moyen de délimiter un territoire. Le chant va être aussi un moyen de se faire le beau et de plaire à sa compagne. Mais c'est aussi un moyen de défense contre les concurrents. Donc le chant, c'est extraordinaire parce que d'une espèce à l'autre, ils sont évidemment différents, mais dans la même espèce, selon la saison, selon l'individu et selon les circonstances, le chant et puis les multiples cris qu'il peut y avoir chez un oiseau peuvent varier. Du coup, il faut une oreille très fine. Je ne peux pas montrer avec les écouteurs, mais bon, j'ai de grandes oreilles. Mais je ne sais pas si ça m'aide beaucoup. En tout cas, ce sont de véritables capteurs de son et de profondeur du son. Pour revenir à la méthode scientifique, l'idée, c'est de dénombrer le nombre de couples nicheurs sur un espace donné à partir de ça. Alors moi, bien sûr, c'est le côté artistique qui me plaît le plus. C'est dialoguer avec l'oiseau, me faire oublier, être moi-même la nature, être moi-même l'oiseau. Et dialoguer avec lui. Vous savez qu'un coucou, quand on l'imite comme ça, eh bien, il vient. Donc je sais exactement à quel moment il vient en sa voix. Et à ce moment-là, je commence à l'appeler. Coucou. Coucou. Généralement, il répond, s'il est là. Et quand il répond, il se positionne. Alors moi, je ne bouge pas trop, mais je peux aussi changer de place. Et c'est un jeu. Alors pour lui, ce n'est pas du tout un jeu, parce que je suis l'ennemi à abattre, clairement. Mais si je continue et que j'insiste, ça peut aller jusqu'à le passage. Enfin, il arrive comme ça, il plonge sur moi, et si je ne suis pas assez habile pour éviter, il peut me donner un petit coup de bec sur la tête. Les chouettes le font, et une chouette me l'a fait, moi. Regardez, enfin, écoutez plutôt. Quand on fait la chouette, il y a intérêt quand même à avoir un casque. Parce qu'une chouette, ça a un bec aussi très puissant. Ben, c'est fait pour attraper des souris, des petits oiseaux, voire des serpents. Et quand il s'agit du hibou grand-duc, par exemple. Ouh oh. Bon, d'accord, je vous fais marrer. Mais c'est très, très sérieux. Ils répondent. Et ils répondent pour une raison, pas pour celle que je leur dis. Alors, dialoguer, c'est un mot un petit peu spécial parce que oui, je dialogue, mais ça peut être aussi une façon de connaître la présence ou non d'un oiseau. Et c'est pas parce qu'il répond pas qu'il ne sera pas là. Donc il faut beaucoup de patience et ça, c'est merveilleux. Apprendre la patience dans la nature.
Parce que du coup, vous pouvez reconnaître et reproduire combien de chants d'oiseaux actuellement ?
Je sais pas. Plus combien ça peut faire, mais peut-être bien une vingtaine d'espèces. Sauf que je vais mettre d'appôt. Alors là, je ne les ai pas emmenés aujourd'hui, mais je reviendrai. C'est aussi une façon de les imiter par les sonorités qui ressortent et qui peuvent être aidées par la parole. Je vous parlais tout à l'heure en off de « Donde está la palabra ?» et de « Poetas del mundo », qui est un mouvement extraordinaire qu'on essaye de relayer maintenant en France. Eh bien, par l'art, par des techniques diverses aussi, mais qui rejoignent toutes les formes d'art, le théâtre, la musique, la peinture, le conte, eh bien, on arrive à cette forme de dialogue. Et du coup, moi, il y a longtemps, j'avais répondu à une demande d'un journal associatif il y a quelques années. J'avais écrit un petit article sur l'oiseau et écrit un certain nombre de petites phrases qui permettent d'imiter ces oiseaux et de le faire reconnaître pour des personnes non initiées. Par exemple, le pinson. Tout le monde connaît le pinson. Quoi ? Vous connaissez pas le pinson ? Voilà ma signature. Ouais. Alors les Beaujus, qui sont têtus, ils me pardonneront, mais c'est quand même bien vrai. Eh ben les Beaujus, ils ont un autre accent, et les pinsons de Bauges, ils ont un autre accent. Tiens, voilà la saison des cerises. Donc effectivement, les pinsons nichent un tout petit peu plus tard en montagne qu'en plaine, mais c'est lié à l'altitude, la saison est un peu plus tardive, c'est normal. Bon, voilà l'exemple du pinson. Mais alors, le pouillot véloce. Moi je l'appelle le pouillot à vélo. C'est mes ascendants avec la bicyclette peut-être. Le pouillot à vélo, il va de feuille en feuille, et puis il essaye de... avec son petit vélo bien sûr. Il essaye de passer, puis pour certaines, c'est un petit peu difficile. Alors, pour passer, il pédale, et puis à chaque tour de pédale, ça va faire tchip-tchap-tchip-tchap-tchip-tchap-tchip-tchip-tchip. Voilà, c'est pour ça que je l'appelle le pouillot à vélo.
Et vous disiez tout à l'heure que les ornithologues, ils étaient tous très sérieux.
Sinon, sérieux. J'aurais pas d'amis chez eux. Mais même les gens très sérieux, on s'entend bien avec eux parce qu'on partage une activité qui permet de déterminer un certain nombre d'actions par la suite, d'actions de recherche, mais aussi d'actions d'alerte. Par exemple, on sait qu'actuellement, en Savoie, il y a plus de 70% des espèces qui sont en diminution ou menacée. Et il y en a déjà 30% qui ont disparu. C'est à peu près des chiffres qu'on peut retrouver dans le monde entier. C'est alarmant. C'est très inquiétant. Et je pense qu'il vaut mieux être un fou du pouillot à vélo et puis d'essayer de l'écouter le plus longtemps possible et d'alerter quand il n'est plus là, plutôt que de continuer aveuglément sur une voie qui mène inévitablement au ravin. Et je fais partie des personnes qui ont envie qu'on fasse un peu autrement et puis qu'on garde toujours l'espoir, l'enthousiasme, le plaisir et puis la compétence. Il faut être pertinent, il faut donner les bons conseils, sinon ça sert à quoi ? Si c'est pour vendre, moi j'ai jamais gagné beaucoup d'argent, je suis pas riche et je m'en fiche.
Donc du coup, c'est un gros rôle que vous avez là en tant qu'ornithologue.
Non.
Bah quand même.
Non, faut rester à sa place. Non, l'ornithologie n'est un métier que pour très très peu de gens. C'est des spécialistes et la plupart des activités d'ornithologie se font bénévolement dans un cadre associatif en particulier. Alors j'ai parlé de la FRAPNA tout à l'heure. Je pourrais parler de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, qui est une très belle association parce qu'elle est extrêmement organisée. Elle est organisée de façon professionnelle avec des vrais pros qui sont salariés ici ou là, alors soit à Rochefort, à son siège. Mais ça, c'est une bonne chose. S'organiser, savoir s'organiser pour mieux lutter et pour apporter aussi des éléments pédagogiques. La pédagogie est extrêmement importante. Elle permet d'amener un public qui n'a pas une connaissance particulière et une sensibilité, un niveau de conscience suffisant, d'être amené à changer ses comportements, à prendre la bicyclette par exemple plutôt que la voiture quand on le peut, à couper son robinet d'eau quand on est en train de faire la vaisselle et puis que ça coule, ou à diminuer, à prendre plutôt une douche qu'un bain. L'énergie, c'est important, mais il faut aussi ne pas la gaspiller. Il faut associer à notre démarche aussi un comportement de soutien à toutes les ONG, donc organisations non gouvernementales, qui travaillent dans ce sens et qui souvent, le plus souvent, ne sont pas écoutées. C'est pas autre chose qu'a dit Nicolas Hulot. Quand il est parti, il a dit « on ne m'écoute pas ». Ou « on ne m'écoute plus ». On l'a peut-être écouté au départ, mais avec d'autres intentions.
Mais il pensait être surtout là pour la figuration.
Non, il ne pensait pas l'être. Je pense sincèrement que cet homme-là, lui-même, a beaucoup évolué entre les démonstrations médiatiques d'Ushuaïa et son action dans le cadre de la Fondation Hulot, qui est devenue la Fondation pour la Nature et l'Homme depuis quelques années. Et son passage au ministère, je pense que c'est un homme qui a vraiment et réellement, sincèrement évolué. Et il était capable d'emmener un groupe aussi fort qu'un peuple national dans une autre voie que celle qui est en train d'être suivie actuellement et qui fait peur.
Tout à l'heure, vous parliez donc de pédagogie qui est vraiment très importante, je pense. La transmission aussi, la sensibilisation. Peut-être pour terminer, j'aime pas trop terminer là-dessus, mais quand même, quelles sont les raisons principales de la disparition de toutes ces espèces d'oiseaux ?
C'est un faisceau de causes au centre duquel il y a vraiment l'homme. Autant dire que le réchauffement climatique va toucher tous les aspects de la planète, touche la biodiversité sous tous ses aspects, mais l'homme, au final, est à l'origine de la plupart des problèmes qui sont posés actuellement sur cette planète, avec un surcroît, un développement de la pollution, une disparition des espaces naturels qui sont maintenant complètement envahis par la voiture, par l'industrie, par l'artificialisation. Par exemple, l'artificialisation d'un sol, c'est la construction d'un parking qui va imperméabiliser le sol, et l'eau, il va falloir qu'elle s'écoule. Et quand il y a beaucoup d'eau, mais qu'est-ce qui se passe ? L'eau, elle va suivre son chemin le plus rapide vers la mer, et elle va tout emmener sur son chemin. Quand on plante des arbres qui n'ont pas lieu d'être à un endroit donné, eh bien, inévitablement, on va créer des incendies. Les incendies gigantesques qu'on connaît en Californie actuellement, ou dans le centre et le sud du Chili, eh bien, ce sont des incendies qui sont complètement, exclusivement liés à l'homme. On a planté ici ou là des espèces qui n'ont pas lieu d'être, qui sont inflammables. Et dès que pour un réchauffement d'un ou deux degrés en été, eh bien, ça peut suffire à déclencher, avec en plus un peu de malveillance, des incendies qu'on ne sait plus gérer. Ça, c'est deux exemples. Mais on pensait aussi à tout ce qui contribue actuellement à l'élévation du niveau de la mer, la fonte des glaces, par exemple. Et bien, tout ça, ça va changer les choses. Et les oiseaux, qui sont partout sur la planète, ne sont pas toujours capables de s'adapter. Certains vont le faire, les plus résistants, et d'autres vont disparaître parce qu'ils ne vont plus trouver le milieu dans lequel ils vivaient. Ils sont atteints par les pollutions. Actuellement, il y a un drame vraiment très très important, c'est la disparition des abeilles et plus généralement des insectes. C'est encore pire que les oiseaux, encore pire. Il y a entre 70 et 80% des espèces d'insectes qui ont disparu sur la planète. Que peut-on faire face à ça ? Il faut arrêter. Il faut arrêter les diphényles, il faut arrêter les glyphosates, il faut arrêter tout de suite. Seulement voilà. On est dans un système où il y a de la complaisance, il y a des appuis, il y a des amis, et pas toujours des bons amis pour la planète.
Et alors en tant que consultant...
Moi je ne prends pas parti en tant que consultant. Je ne peux pas. Quand je mène une action, je la mène de façon objective. La finalité, c'est d'amener un partenaire à modifier son comportement sur certains postes où c'est le plus facile. On ne va pas commencer par le plus difficile. Commence par le plus facile. On fait un diagnostic, on fait le point, on regarde. On associe ensuite toute la chaîne de décision et puis bien sûr l'ensemble des salariés d'une entreprise, l'ensemble des ressortissants d'une collectivité, les associations, les pouvoirs publics, les services, et on travaille ensemble. Il faut trouver des bonnes manières pour mobiliser, intéresser les gens. Ça, c'est un autre aspect, c'est plutôt l'aspect communication.
Merci beaucoup, Daniel Card.
Avec grand plaisir.
Au revoir.
Au revoir.